Radio Prague, les informations. Bonjour, Václav Havel considère l'installation du radar américain comme une chance pour la République tchèque. Le Premier ministre était en visite aux Émirats Arabes Unis où les Tchèques pourraient construire une piste de ski couverte. Et enfin, la première de la nouvelle pièce de Václav Havel aura lieu le 22 mai au théâtre Archa à Prague. Václav Havel considère que la requête américaine d'installer un radar sur le territoire tchèque est une chance pour la République tchèque d'aller au-devant des souhaits d'un allié, en l'occurrence les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président lundi à la télévision tchèque. Václav Havel estime que sans l'aide des États-Unis, la Tchécoslovaquie indépendante n'aurait pas vu le jour en 1918 et le rideau de fer ne serait pas tombé. Pour la première fois, les États-Unis attendent quelque chose de nous. Cela a toujours été le contraire. Ils nous demandent peu de choses et nous commençons à faire des caprices, a-t-il expliqué. Rappelons que les États-Unis négocient actuellement avec la République tchèque et la Pologne de l'installation d'un système de défense antimissile en Europe. Les investisseurs tchèques pourraient construire dans un proche avenir une station de ski couverte dans l'émirat arabe d'Abu Dhabi. La taille de cette station, avec une piste longue de 2 km et large de 80 mètres, pourrait même être encore plus grande que celle ultramoderne existant déjà à Dubaï. Les travaux de construction pourraient être confiés à la société Vitkovice Holding. L'information a été communiquée par différentes sources économiques lors de la visite du Premier ministre Mirek Topolánek aux Émirats Arabes Unis. Le chef du gouvernement justement a achevé lundi un voyage de 5 jours au cours duquel il s'est rendu au Yémen, au Vietnam puis aux Émirats Arabes Unis. Les objectifs de ce voyage étaient essentiellement économiques. Lundi, Mirek Topolánek a rencontré le Premier ministre de la Fédération et émir de Dubaï. À cette occasion, il a invité les investisseurs de Dubaï à intensifier leurs investissements en République tchèque. L'ancienne Tchécoslovaquie et les Émirats Arabes Unis avaient noué une collaboration industrielle dans les années 1970 lors de la création de l'État arabe. Après les États-Unis, les Émirats Arabes Unis sont le deuxième pays le plus important en dehors de l'Europe pour les exportations tchèques, notamment de cristal. En 2006, le montant des exportations tchèques s'est élevé à 485 millions de dollars. La première de la nouvelle pièce de théâtre de Václav Havel, Odcházení, sur le départ, aura lieu au théâtre pragois Archa le 22 mai prochain. L'ancien président tchèque l'a annoncé lundi midi à la télévision. Sa femme Dagmar Havlova et le comédien Jan Tříska interpréteront les rôles principaux. Václav Havel a présenté sa pièce en novembre dernier. Depuis, plusieurs scènes, dont celle du Théâtre National, ont été évoquées comme lieu de première, sans que les négociations n'aboutissent pour différentes raisons. En football, les joueurs de l'équipe de République tchèque convoqués pour le match amical contre le Danemark mercredi se sont rassemblés lundi à Prague. Pour ce match de préparation en vue de la phase finale du championnat d'Europe en Autriche et en Suisse en juin prochain, plusieurs cadres de la sélection manquent à l'appel pour cause de blessures. L'entraîneur Karel Brückner devra notamment se passer des services du gardien Petr Čech et du meneur de jeu Tomáš Rosický. On termine avec un mot de météo. Après un lundi de Pâques nuageux, la grisaille reste de mise avec de possibles chutes de neige mardi, jour de la fête des Mariannes. Les températures sont stables et se situent entre 1 et 5 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de ce programme Pascal, un programme spécial sur Radio Prague avec beaucoup de musique, mais ce sera en deuxième partie d'émission. Tout de suite, nous nous rendons sur l'une des collines de Prague, dans le quartier de la Montagne Blanche, Bílá Hora, à la rencontre de sœur Bénédictine, de retour en République tchèque après bien des années d'absence. Un reportage de Guillaume Narguet.
En décembre dernier, 4 sœurs tchèques de l'ordre de Saint-Benoît, mieux connues sous le nom d'ordre bénédictin, ont fait leur retour à Prague 88 ans après le départ des dernières bénédictines de Tchécoslovaquie. Un retour discret mais marquant au couvent de la Montagne Blanche dans le quartier de Bílá Hora, au lieu de l'histoire de la Bohême et du conflit qui a opposé pendant la guerre de 30 ans, principalement en Europe centrale, catholique et protestant. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces religieuses artisanes du renouveau dans leur pays natal, de la branche féminine de l'un des ordres les plus anciens de l'Église catholique romaine, accueillie par sœur Anechka ou sœur Agnès en français. L'histoire des bénédictines tchèques est l'histoire du plus ancien des ordres religieux instaurés en Bohême et en Moravie, les deux régions qui constituent aujourd'hui la République tchèque. L'histoire des bénédictines tchèques, dont les débuts sont même antérieurs à ceux des moines bénédictins, c'est aussi l'histoire de trois retours aux racines à différentes périodes de l'histoire mouvementée de leur pays d'origine. Leur premier couvent fut fondé en 973 au château de Prague par Mlada Przemyslovna, la sœur du prince des Przemyslides, la dynastie qui régna sur la Bohême du 9e jusqu'au début du 14e siècle. Très vite, le couvent devient un centre du savoir, comme l'explique sœur Aneška.
Le couvent a effectivement joué un rôle relativement important dans l'histoire de la Bohême, notamment sur le plan culturel. On suppose ainsi que ce sont les premières bénédictines qui ont traduit les saintes écritures du latin au tchèque. Mais d'une manière plus générale, elles ont grandement contribué à l'éducation du peuple tchèque. Pour donner une idée de cette influence, on peut également rappeler que l'abbesse avait le droit, avec l'évêque de Prague, dont l'évêché avait été créé la même année que le couvent, de couronner la reine tchèque. Et elle a possédé ce droit jusqu'en 1782, lorsque le couvent fut dissous par un décret de Joseph II d'Autriche.
À l'époque, l'empereur du Saint-Empire romain germanique est à l'origine de réformes religieuses, inspirées de l'esprit des Lumières qui conduisent, entre autres, à la suppression des congrégations et des ordres religieux jugés inutiles. Les bénédictines font donc partie des victimes de ces réformes brutales. Les sœurs réfugiées en Allemagne font leur retour en Bohême un siècle plus tard, en 1889, et fondent un nouveau couvent, Saint-Gabriel, à Prague, dans le quartier de Smichov. S'ensuit alors une période faste qui ne dure toutefois pas longtemps, la communauté étant constituée majoritairement de religieuses de langue allemande. Une situation inconfortable dans une Bohême anticléricale, placée sous domination autrichienne et étouffée par le catholicisme imposé depuis la bataille de la Montagne Blanche en 1620. Cette bataille, cruciale dans le déroulement de la guerre de 30 ans, entraîna la suppression de la liberté de religion, le départ des élites protestantes du pays et mit fin à l'indépendance de la Bohême pour 3 siècles. Un contexte guère propice au sort des bénédictines. Sœur Aneška explique pourquoi.
Malheureusement, et même si le couvent s'était bien développé, puisqu'une centaine de sœurs y ont vécu pendant ces 30 ans d'existence, après la création de la Tchécoslovaquie en 1918, les Tchèques étaient animés d'un fort sentiment nationaliste et ont pris conscience de l'importance pour leur existence de la langue tchèque. Or, la majorité des sœurs qui vivaient à Prague au couvent étaient d'origine allemande. Elles ont donc pris peur et ont quitté la Tchécoslovaquie pour s'installer en Autriche voisine, où leur communauté existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Leur départ a signifié la disparition de la vie bénédictine dans le pays. À partir de ce moment-là et jusqu'à l'année dernière et à notre retour, il n'y a donc plus eu de couvent de bénédictines.
Près de 90 ans plus tard, le 8 décembre 2007, sœur Aneška, sœur Petra, sœur Birgitta et sœur Jana Mlada ont été les 4 premières fondatrices, en quelque sorte, à intégrer le couvent de la Montagne Blanche, nouveau couvent donc de bénédictines en République tchèque, qui appartient à la communauté Vénio. Cette communauté, au fonctionnement atypique dans l'ordre bénédictin, se trouve à Munich, en Allemagne. Actuellement, c'est sous sa tutelle que les sœurs tchèques sont placées, faute de pouvoir encore assumer seules leur indépendance. C'est aussi en provenance de Bavière, où elles ont passé plusieurs années, que les sœurs tchèques sont arrivées à Prague. Auparavant, sœur Aneška, par exemple, qui a 35 ans, est la plus ancienne des 4 et dont la vocation remonte au début des années 1990, a également passé 12 ans à Przemyśl, en Pologne, dans un ordre contemplatif. Et après une vie cloîtrée, entièrement consacrée à la prière, sœur Aneška a découvert la communauté Vénio à Munich, dont la particularité est de s'ouvrir à l'extérieur en tendant à se rapprocher au maximum des réalités du monde contemporain et de son quotidien.
Ten rozdíl mezi komunitou Verneo a tímhle klasickým klášterem benediktinek.
La principale différence entre la vie de la communauté Verneo et celle dans un couvent bénédictin classique est que les sœurs se rendent au travail à l'extérieur du couvent et continuent d'exercer leur profession initiale. Bien entendu, si celle-ci n'est pas en contradiction avec la règle de Saint-Benoît, l'esprit de la communauté ou de l'Église en général. Les sœurs continuent donc de se consacrer à ce qu'elles faisaient avant d'entrer au couvent. Nous voulons essayer de faire la même chose ici à Prague. Nous voulons voir jusqu'à quel point il est possible d'appliquer un tel mode de vie dans une autre ville et dans un autre environnement, parce que la communauté munichoise Verneo est la seule de ce genre qui existe dans l'ensemble de l'ordre bénédictin. Les Allemands ont l'avantage de pouvoir travailler à temps partiel. Ils passent quelques heures par jour ou quelques jours par semaine au travail avant de se consacrer à leurs obligations au sein de la communauté. Pour l'instant, à Prague, nous ne savons pas encore si nos employeurs seront d'accord.
Tandis que Sœur Anechka est ingénieur constructeur de formation, deux autres sont restauratrices et maîtres de conférences en psychologie, tandis que la quatrième poursuit ses études. Et toutes comptent bien à court terme exercer leur activité professionnelle dans le civil. Ce rapprochement avec le monde extérieur n'est d'ailleurs pas la seule particularité de la communauté Verneo.
Une autre différence est que les sœurs portent un habit civil, et ce depuis la fondation de la communauté en 1926. Elles ne portent la robe noire et le voile que lors de la liturgie et des offices religieux.
Enfin, autre élément qui contribue à l'ouverture de la communauté, les rencontres organisées à intervalles réguliers avec des femmes de l'extérieur désireuses de participer à la vie spirituelle des sœurs ou de vivre avec elles la liturgie. Pour Sœur Anechka, il s'agit bien là aussi d'une pratique de la vie en société.
Ces rencontres ne sont pas uniquement destinées à celles qui veulent entrer au couvent, pas du tout. Le seul critère de participation est que quelqu'un s'intéresse à la spiritualité bénédictine. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il est vrai aussi que toutes les vocations sont apparues grâce à ces rencontres. Lors de ces rencontres, nous discutons des principes de notre spiritualité, mais de telle manière à ce que toutes les femmes présentes, quelle que soit leur situation personnelle, familiale ou même leur âge, puissent en retirer quelque chose et s'en servir ensuite dans leur vie quotidienne, dans leur famille ou à leur travail.
On l'aura compris, la principale mission de la règle bénédictine est de chercher Dieu et de le célébrer dans toutes les activités de la vie quotidienne, dans la prière comme dans le travail, dans la vie en communauté comme dans l'accueil des personnes extérieures au couvent. Une spiritualité universelle, en somme, qui inspire confiance à Sœur Anechka quant à l'avenir de la jeune communauté bénédictine pragoise.
Oui, je suis plutôt optimiste, car après nos passages de Pologne en Allemagne, puis d'Allemagne en Tchéquie, notre situation était un peu floue et pas très stable. Je suis donc à la limite presque contente que personne ne nous ait rejoint pendant cette période, car former quelqu'un dans ces conditions n'est vraiment pas simple. Mais maintenant que nous sommes installés à Prague, certaines vocations sont apparues. Au mercredi des cendres, une Tchèque a ainsi entamé une formation à Munich, et nous devrions bientôt accueillir deux nouvelles sœurs tchèques elles aussi. Si Dieu le veut, nous pourrions donc être 7 dès l'année prochaine.
Voilà, c'est donc la fin de ce reportage consacré au retour des sœurs bénédictines en Bohême et en République tchèque après 90 ans d'absence. Merci de votre attention. Tout de suite, place à la musique. Pascal sur Radio Prague.
Vendredi saint, vendredi dernier, le Théâtre national de Prague a programmé l'oratorio Stabat Mater d'Antonín Dvořák, une des œuvres majeures de la musique sacrée qui avait été un des premiers succès internationaux de son auteur. Pour cette production, le Théâtre national a réuni un quatuor de solistes renommés, dont la soprano Eva Urbanova. La direction du chœur et de l'orchestre du Théâtre national a été confiée au jeune chef canadien Charles Olivieri Munro. Antonín Dvořák a achevé ce chef-d'œuvre en 1877 après avoir perdu 3 enfants en bas âge. Le célèbre poème latin de Jacopone da Todi, qui avait inspiré tant d'autres compositeurs, lui a servi pour exprimer sa douleur, mais aussi son espoir de rédemption. Le texte latin, évoquant la souffrance de la mère du Christ crucifié, a ouvert les sources profondes de son aspiration et lui a permis d'atteindre au sublime. Le musicologue français Guy Erisman remarque que l'image de la Mater Dolorosa que nous donne Dvořák est loin d'une glorification éblouissante d'une mère céleste et inaccessible. Le succès de Stabat Mater a été quasi immédiat. Il a hissé Antonín Dvořák parmi les plus grands compositeurs de musique sacrée dans le monde et l'a imposé notamment en Grande-Bretagne, pays où sa gloire n'allait plus se démentir. Au Théâtre national, le Stabat Mater a été donné pour la dernière fois à Prague en 1917 et il était donc grand temps de donner au public de ce théâtre la possibilité de réentendre cette musique qu'on a l'habitude d'entendre plutôt dans des églises et des salles de concert. Parmi les meilleurs enregistrements du Stabat Mater, il faut sans doute compter celui réalisé pour le label Supraphone avec l'orchestre et le chœur philharmonique tchèque par le chef allemand Wolfgang Sawallisch. Voici un extrait de cet enregistrement qui date des années 80 mais reste inégalé encore aujourd'hui. Le Stabat Mater d'Antonín Dvořák dans cet enregistrement exceptionnel qui date des années 80, mais comme je le disais tout à l'heure, qui reste inégalé encore aujourd'hui. On passe à des chansons un peu plus folkloriques cette fois. Nous sommes donc le week-end de Pâques et nous allons écouter tout de suite un extrait d'un album qui s'appelle la World Music, la Folk Music en République Tchèque. Et le titre s'appelle « La légende de Pâques, Velikonoční legenda », extrait tout de suite. C'était la légende de Pâques et on passe tout de suite à une autre chanson de ce mel album qui s'appelle Folk Music. La semaine dernière, vous le savez, on a fêté l'arrivée du printemps, solstice et Pâques en même temps. Et la chanson que nous allons écouter tout de suite s'appelle Jaro se otvira, le printemps s'ouvre. Et c'est en musique avec ce titre Le printemps s'ouvre que se termine le programme en français de Radio Prague, le programme spécial Pâques. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Retrouvez-nous sur notre site internet au www.radio.cz.
Jaro se otvíra, nový čas nastává. Jaro se otvíra, nový čas nastává. Májové kvítky, sbírejte dítky, sbírejte všichni křesťané. Jsou kvítky krásné, ačkoliv jasné, až jaro nové nastane. Jaro se otvírá, nový čas nastává. Jaro se otvírá, nový čas nastává. Zbírejte bíle každému. Větříček věje, všecko se směje, přemile svítí sluníčko. Jaro se otvírá, nový čas nastává. Jaro se otvírá, nový čas nastává. Jaro se otvírá. Čas nastává, zbírejte bíle, každému míle.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.